Bienvenue chez CEO,
le podcast qui décrypte les codes du monde de l'entreprise
pour la jeunesse étudiante. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Moi, c'est Pierre Damien Fougou et aujourd'hui, on est encore à CEO. CEO avec la Radio Campus que nous remercions d'ailleurs de nous accueillir tous les mercredis à midi. Et je ne suis pas seul, comme toujours, je suis accompagné de mon confrère, de mon frère, de mon ami, Tom Brel. Tom Brel qui est intrapreneur dans la grande distribution en Afrique de l'Ouest. Bonjour Tom Brel.
Bonjour, toujours un grand plaisir d'être ici. Et je suis accompagné de mon confrère, fidèle compagnon, Pierre-Damien Fougou, formateur en art oratoire, doctorant en droit bancaire et enfin chargé d'enseignement. Et aujourd'hui, on n'est pas seul.
On n'est pas seul. Aujourd'hui, on est avec une invitée particulière, une invitée spéciale, une amie, hein, parce que je pense qu'on a dépassé l'étape de collègues. On est aujourd'hui amis, nous trois. Et nous allons vous la présenter. Je pense même qu'on va la laisser se présenter, n'est-ce pas? Alors, madame, mademoiselle, bon, madame quand même. Madame, est-ce que
tu veux te présenter? Moi, c'est madame Beukering et son Cynthia, et je suis doctorante en droit, et à côté de cela, je me suis lancée il n'y a pas tellement longtemps dans l'entrepreneuriat.
Parfait, exactement ça. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on en parle, c'est parce que comme ce podcast l'a toujours clamé depuis le départ, on est en train d'essayer de donner des codes aux étudiants, tant dans le milieu étudiantin, mais également dans le milieu de l'entreprise, dans le milieu professionnel. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle on fait intervenir Cynthia, c'est parce que elle à côté du doctorat qu'elle fait, donc à côté de ses études particulières de la thèse, elle a réussi à monter une entreprise. Et donc, on va parler de ça, parler de la manière dont conjuguer l'activité doctorale et l'activité entrepreneuriale. Est-ce que c'est facile? Quels sont les conseils qu'on pourrait avoir? Quelle est même la vision que Cynthia a du monde professionnel et de la manière dont elle utilise certains outils peut-être pour s'en sortir, afin que tous les étudiants qui nous écoutent, toutes les personnes qui nous écoutent sachent que c'est possible, on peut le faire et voici les conseils qu'ils pourraient utiliser pour essayer de mieux s'en sortir.
Avant de commencer, Cynthia, est-ce que tu pourrais nous dire comment t'en es arrivée là à te dire « Ok, je suis doctorante et à l'heure actuelle, j'ai envie de me lancer dans une aventure entrepreneuriale
» Dans un premier temps, c'est pas comme si c'était nouveau pour moi. J'ai commencé au fait à donner des conseils dans le capillaire depuis mon pays natal, parce que pour rappel, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Et depuis là-bas, on m'avait demandé ma passion. Et je me suis trouvée face à un dilemme, parce que je me suis rendu compte au fait que Cindy, hormis le droit, t'as pas véritablement de passion, quoi.
Ouais.
C'est bizarre à dire, mais j'ai donc décidé de travailler sur moi, de développer des compétences que j'avais pas, et je me suis dit, tiens, t'aimes pas tes cheveux, et si tu trouvais des moyens pour les rendre plus beaux et tout ça? Et j'ai créé comme ça au fait un compte Facebook, voilà, parce que grosse flemmade. Quand je fais les choses toute seule, je ne suis plus tellement motivée. On m'appelait souvent même la motivation du moment. Ouais. Donc j'ai créé ce compte là pour être vraiment assidue.
Ouais.
Et chose bizarre, ça a commencé comme ça. Et on s'est retrouvé à 15 000 abonnés, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui avaient ce type de problème, qui voulaient avoir des cheveux magnifiques et ne savaient pas comment s'y prendre. Et moi, je venais tout simplement, gratuitement, et j'apportais ça. Et j'avais vraiment peur parce que pour moi, c'était, j'ai trouvé ma passion. Mais ce n'était pas encore une activité. Ce n'était pas du tout une activité parce que pour moi, une juriste, elle ne peut pas faire ça. Ouais, elle doit même pas le faire. C'est comme si tu vois, tu vas à l'école, on se dit que elle va terminer juge, avocate, et pour moi c'était pas possible au fait. Et du coup, quand je suis arrivée ici en France et que j'ai commencé au fait à faire la thèse, j'ai vu que c'était pas facile pour les étudiants doctorants qui venaient d'ailleurs de cumuler le doctorat et la situation de vie ici.
Ok. Et ce que j'apprécie beaucoup dans ton histoire, c'est que tu as réussi en fait à partir d'un complexe et à le transformer en opportunité. Et finalement, en fait, il y a beaucoup de personnes qui se sont reconnues dans ton parcours et qui se sont identifiées. Et à partir de là, tu as réussi à pouvoir créer un business autour de ce complexe. Et à l'heure actuelle, ça te permet de pouvoir avoir un complément de salaire et à pouvoir vivre même de ta passion.
C'est ça.
Et j'aimerais même insister sur quelque chose. Tu en parlais, tu disais que bah, lorsqu'on fait des études, on se dit bah, on va être juge, avocat. En gros, en termes de notoriété, il y a quand même une étape à atteindre ou une étape à franchir. Et à côté, est-ce que c'était, à ton avis, mal vu de faire ce type d'entreprise? Parce que, précisons-le, je pense qu'on ne l'a pas fait depuis le départ. Ton entreprise, c'est dans le capillaire, n'est-ce pas?
Oui.
Est-ce que, bon, avant même de continuer, est-ce que tu peux décrire ton entreprise? Et comme ça, on pourra enchaîner avec les questions.
Ok, il n'y a pas de souci. Donc, moi, mon entreprise, elle s'appelle Syndica. Mmh. Tout simplement. Et je suis au fait dans les accessoires pour cheveux et aussi dans les produits capillaires. Donc tout ce qui est environnement de cheveux, c'est vraiment quelque chose dans lequel je me suis passionnée, spécialisée. Et du coup, j'apporte mon expertise à toutes les personnes qui le désirent.
Ok, parfait. Et donc, tu disais qu'il y avait que le cumul doctorat ou le cumul études juridiques particulièrement. Études juridiques et entreprises de personnes qui vendent des prestations ou du moins qui proposent des prestations dans le milieu capillaire. Ce n'est pas forcément cumulable, c'est ça. Est-ce qu'il y avait ces... Tu penses qu'il y a cet a priori de non-cumul?
En fait, pour la société, je dirais oui. Pour moi, non. Mais pour la société, je dirais oui, dans la mesure où j'ai été confrontée à cela. Par exemple, quand je me suis lancée, vu que j'ai eu mon master 2 en droit et tout, les gens me disaient « Mais Cindy, tu es une brillante étudiante, pourquoi tu ne ferais pas des manuels de droit pour les revendre comme activité ?» Et je disais « Ben, moi, je suis à la recherche de ma passion. Ouais, je suis passionnée déjà du droit. Je me suis donné corps et âme pendant des années, d'ailleurs. Et même, je fais une thèse. C'est quand même beaucoup d'années, quand même, pour cette passion. Je veux me découvrir une autre passion, quelque chose que je ne connais pas et que je vais m'y passionner, je vais m'y donner corps et âme. Et pour ces personnes-là, c'était vraiment très, très, très mal vu. J'ai même eu comme slogan ben, la vendeuse de chouchou. Okay. À vrai dire, ça me faisait terriblement mal de l'entendre. Okay. J'avais beaucoup mal d'entendre ces mots-là, vendeuse de chouchou. Et moi-même, au fait, au départ, avant de lancer mon activité, je l'ai lancée, c'est vrai, mais j'avais du mal à faire corps avec cette activité. Parce que déjà, le descriptif qu'on me donne, la société du moins, se me donnait, c'était comme si c'était mal, au fait. Et bam, j'ai eu l'idée selon laquelle, mais c'est pas si grave que ça, d'être une vendeuse de chouchou. À vrai dire, on travaille pour... Bon, je ne veux pas indexer quelqu'un, voilà, parce que moi, je n'aime pas juger. Mais on est tous là pour travailler pour des choses qui sont importantes pour l'humain. Je dirais tout simplement que cristalline, on adore bien cette eau. Mm-hmm. Et on espère que peut-être nos enfants iront travailler là-bas comme, je ne sais pas, commercial ou n'importe quoi. Mm-hmm. Ben, c'est des vendeurs d'eau. Voilà, tout simplement, c'est des vendeurs d'eau. On est tous vendeurs de quelque chose. Et quand j'ai pris conscience de cela, je me suis dit, écoute, Cindy, tu aimes le droit et tu adores rendre la femme belle. Et pourquoi ne pas cumuler tout ça?
Ouais, je vois.
Et à quel moment tu as eu ce déclic à dire, ok, maintenant j'assume ce que je veux vivre, j'assume ce que je veux être? Et c'est parti, je me lance dans cette aventure doctorante et entrepreneuriale.
Oui, surtout parce que, comme tu le dis, il y a quand même eu beaucoup de personnes qui t'ont critiqué. Donc, il a quand même fallu quelque chose pour te dire, ouais, ah, c'est pas grave.
Bascule, en fait.
Ouais, c'est quoi le moment de bascule?
En fait, le moment de bascule, c'est lorsque je me suis rendu compte que, ben, Cindy, tant que tu n'assumes pas, les gens vont te critiquer, au fait. Okay. C'est drôle, mais bon. Après avoir reçu plus de 20 personnes très, très proches de moi qui ont critiqué cette activité, je me suis dit, merci beaucoup, ça fait plaisir. Plus t'es critiqué, plus t'es sur le bon chemin. Donc, c'est eux, peut-être que plus tard, je leur dirai merci, je leur ai envoyé des cartes postales de Syndica, mais c'est vraiment eux qui m'ont motivée à prendre ça à cœur. Je me suis dit, écoute, ils te critiquent parce que tu ne l'assumes pas. Ils te critiquent parce que toi-même, tu ne vois pas la plus-value de ce que tu fais. Et dès le moment que tu vas voir que c'est important et que tu vas travailler, parce que depuis le début, tu as pu motiver plus de 15 000 personnes sur Facebook, plus de 3 000 personnes sur Instagram à suivre, c'est qu'ils trouvent que ce n'est pas important, c'est qu'il y a quelque chose. Fais-le pour toi. Et j'ai décidé, au fait, pour une fois dans ma vie, de faire quelque chose pour moi.
Ok, parce que le droit, c'est pas pour toi?
Si, le droit, c'est pour moi à la base. Comme je l'ai dit, je l'ai dit au départ que c'est ma passion et la preuve, j'y consacre encore des années là-dedans.
C'est vrai.
Voilà. Donc moi, les gens voulaient simplement que je m'identifie à cette femme juriste et tout court, tu vois.
On te met dans une case, quoi.
Voilà, voilà. Et c'est ça, au fait. Les gens ne sont pas habitués à voir quelqu'un qui fait trois choses à la fois. Et moi, je ne faisais que deux, et déjà, c'était difficile pour eux. Mmh. Donc,
En fait, tu voulais sortir de ton carcan et je pense que d'une certaine manière, tu reflétais une certaine peur vis-à-vis des autres parce qu'ils se sont dit, ok, il n'y a pas qu'un seul chemin, en fait. Et ce que j'adore, en fait, dans ton parcours, c'est que tu dis, ok, l'obstacle, c'est le chemin. Et d'une certaine manière, les personnes qui t'ont critiqué, elles t'ont prouvé à toi-même que c'est quelque chose qui te tenait réellement à cœur. Parce que souvent, ouais, quand on trébuche, quand on a des obstacles, à la moindre difficulté, on abandonne. Et là, tu t'es dit non, en fait. Tu t'es dit, c'est quelque chose qui en vaut le coup. Et je vais aller au bout. Et je pense qu'à l'inverse, ça t'a donné la force d'avancer. Le fait de cumuler ces deux activités-là. Et je pense qu'on est un peu la somme de ce qu'on fait. Et d'une certaine manière, tu incarnes un peu la vie que tu as envie de vivre.
C'est ça.
Il n'y a pas de besoin de faire dans la demi-mesure. Je pense que c'est important d'aller au bout des choses. Et souvent, et je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne sont pas que des avocats, qui ne sont pas que des directeurs, qui ne sont pas que un poste qu'on a dans le cadre de nos études. Je pense que c'est intéressant de voir des parcours qui sont divers et variés. Et c'est ça qui fait la richesse de l'homme. C'est le fait d'aller chercher dans des domaines qui sont complémentaires, voire même totalement différents. Et je pense que c'est comme ça, d'une certaine manière, qu'on innove et de l'autre, qu'on inspire.
Totalement. Et ça me permet même de rebondir dessus parce que là, on parle de... Lorsqu'on voit tes deux activités, l'activité doctorale, ta thèse et l'activité entrepreneuriale, on se dit qu'il n'y a pas forcément de complémentarité. Alors que moi, personnellement, je pense que c'est quand même... Ce sont deux activités qui, déjà sur la manière dont tu vas les gérer, te donne une certaine force aussi que tu pourras utiliser dans le milieu doctoral. Comment est-ce que toi, tu gères donc ces deux activités? Comment est-ce que tu gères à la fois ton entreprise et la thèse? D'abord, est-ce que c'est facile? Et si ce n'est pas évident, quelles sont peut-être les difficultés que tu rencontres sur ton chemin, parce que je suppose que tu en rencontres, et comment tu les gères à ton niveau?
Je ne vais pas venir mentir aux gens ici, c'est très difficile. C'est beaucoup, beaucoup difficile. Déjà, au niveau de l'organisation, si ce n'est pas vraiment quelqu'un de super organisé, et je préfère le dire, je ne le suis pas. Parce que
c'est bien l'assumer.
Voilà, il faut le dire. Parce que quand tu parles comme ça, les gens se disent « Ah, elle est très, très organisée ». Non, je ne l'étais pas. Je ne suis pas toujours organisée. Voilà, je ne suis pas toujours organisée.
Je confirme.
Voilà, mais au fait, moi, ce qui me décrit, c'est surtout le fait que... Je me dis, les deux sont importants pour moi. J'ai besoin d'eux pour survivre. J'ai besoin d'eux pour vivre. J'ai besoin d'eux dans mon futur. Je ne peux pas choisir. Et vu que je ne peux pas choisir, je suis obligée de les aimer de la même manière. Donc, 50-50. Okay. 50-50. Et très souvent, dans syndicat, il y a le droit qui vient. Lui tenir compagnie, par exemple, quand je signe des contrats, oui, je suis juriste, il faut bien que ça me serve quelque part. Donc, quand je signe des contrats avec des gens, la Cynthia, juriste, elle apparaît. Et souvent, quand je dois aller présenter mes travaux de recherche, y a Syndica qui donne de petits conseils à Cynthia pour qu'elle puisse être bien présentable et tout ça. Donc, finalement, j'ai vu que moi, je ne peux pas choisir et donc je fais 50-50. Et le conseil que je peux donner aux personnes qui décident si elles ne sont pas bien organisées comme moi, c'est ayez un agenda. Moi-même, malgré je l'ai, j'arrive quand même à me tromper souvent. Mais ayez déjà un agenda et notez. Et si vous voyez que vous faites une semaine où vous n'avez pas tellement consacré du temps à l'un, la semaine prochaine, faites tout pour remplir vos tâches, par exemple pour la thèse ou bien pour votre activité.
Pour combler un peu d'une certaine manière.
Ça me fait penser à l'un de nos anciens podcasts où on parlait de prioriser et d'arbitrer continuellement. Je pense que on peut être désorganisé, mais à partir du moment que chacune de nos activités sont celles dans lesquelles, enfin, des activités qui comptent pour nous, enfin, je sais pas, là, dans ton cas, c'est le doctorat et ton activité, en fait, on se trompe pas réellement parce que quoi qu'on fasse, on est gagnant. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est important et je pense que c'est l'essentiel, c'est de se dire avant la semaine, ok, quoi que je fasse, en fait, je suis gagnant, j'ai avancé sur les choses qui sont importantes pour moi. Et à l'inverse, je pense que si on veut autre chose, il faut savoir aussi en lâcher d'autres. Je pense que souvent on se dit oui, pourquoi faire plus, mais je pense qu'on devrait être plus dans une dynamique de pourquoi faire moins. Il y a ces dynamiques, ces tendances vers le minimalisme, mais d'une certaine manière, dans les activités du quotidien, je pense qu'il vaut mieux supprimer les activités et en faire, et pour en ajouter des nouvelles et en faire moins et se concentrer, parce qu'on parlait du temps, mais aussi on parlait aussi de l'énergie dans l'ancien podcast, et je pense que c'est important, l'énergie physique et l'énergie mentale à prendre en compte dans le cadre de nos choix de vie. Et je pense que je te rejoins sur le sujet, sur le fait de se dire, ok, du moment que j'avance sur mon activité en tant que doctorante et mon activité en tant qu'entrepreneuse, je m'inquiète pas.
Ouais.
Et je suis équilibré. Parce que je rebondis sur ça, je pense que c'est important de trouver son point d'équilibre dans sa vie. Pour certains, c'est extrême. Pour d'autres, non, c'est totalement normal.
Et en plus, on en parle, là on parle juste des deux activités, mais j'imagine aussi que... Parce que ta thèse, est-ce qu'elle n'est pas financée ?
Non.
Non, donc
elle n'est pas financée.
Donc à côté, ce n'est pas uniquement Syndica qui te donne à manger, il y a également un job étudiant derrière.
Oui, il y a également un job étudiant derrière.
Oui, donc ça fait énormément, ça fait une organisation quand même assez monstre. Et il ne faut pas l'oublier parce que... Et c'est vrai... Il faut être conscient parce que et ça montre également là que tu es quelqu'un de passionné parce que faire autant de choses, faire toutes ces choses là qui comptent pour toi parce qu'elles comptent pour toi, il faut forcément être passionné et se dire bah tous les jours ne seront pas forcément aisés, mais je prends quand même le pari de croire en moi-même. Et j'ai une question, quels sont les éléments particuliers que tu penses que Syndica t'apporte dans ta thèse, que ce soit en termes d'organisation, en termes de psychologie ou de personnalité? Comment tu penses que Syndica, ton entreprise de capillaire, te fait grandir en termes de personnalité? Quels sont peut-être certains outils que Syndica te donne et vice-versa également?
D'accord. Donc déjà, lorsque j'ai créé Syndica, j'ai voulu coûte que cette entreprise ait des valeurs. Et ces valeurs-là, c'est vraiment quelque chose qui est intrinsèque à ma personne. Donc c'est indissociable que ce soit Syndica ou Cindy, la doctorante. Et la première des choses, c'est la détermination. Oui. La détermination. C'est-à-dire se dire que peu importe ce que l'on peut dire, rester focus sur son objectif et se donner les moyens, les capacités de pouvoir arriver jusqu'au bout. Et à côté de cela, c'est vraiment l'empathie. L'empathie, ça c'est plutôt Syndica. Parce que être en contact avec des gens au quotidien, bah, tu ne peux pas être désagréable.
Ah, ça.
Surtout si tu leur vends quelque chose.
Surtout si tu leur vends quelque chose, tu vois. Et moi, j'ai beaucoup entendu, il y a une dame, une fois, j'étais à un stand, elle m'a dit, tu sais quoi, j'achète ce produit-là parce que franchement, tu es trop douce. J'ai dit, ah, c'était gentil.
La douceur, donc, c'est donc la clé.
Donc vraiment, l'empathie. Donc voici, je dirais que Cindy, la doctorante, apporte la détermination à Syndica et Syndica apporte l'empathie à Cynthia, la doctorante.
Ok, c'est bien ça. Ok.
Mais l'empathie, je pense que c'est la clé dans tout domaine entrepreneurial parce que la première chose à faire, c'est comprendre sa clientèle et pour délivrer un service différenciant parce que je peux être vendeur de chouchous demain, mais je n'arriverai pas à avoir ta clientèle.
Ouais.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une personnalité derrière, il y a une empathie, il y a une relation de confiance qui s'est créée. Mmh. Et je pense que l'empathie, c'est une compétence très importante à développer dans le cadre de tout projet.
C'est vrai.
Effectivement.
Une autre question, étant donné que tu es une étudiante étrangère, une ivoirienne qui est venue étudier en France, comme moi également, pour toi, quels ont été les obstacles ? Parce que tu es venu directement pour la thèse, n'est-ce pas ?
Oui.
Ok. Et quelles ont été pour toi les difficultés ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés, d'étudiants étrangers, lorsqu'ils arrivent, ils ont des difficultés qui parfois sont similaires, parfois pas. Donc pour toi, quelles ont été les difficultés pour qu'après on puisse voir comment est-ce que tu as réussi à les
surmonter ?
Exactement, à les surmonter.
Bah, déjà, quand tu arrives, t'es content. T'es content. Tu te dis que la vie ici va être encore plus agréable. Parce que oui, dans nos pays, c'est agréable, mais je te dis ici, ça va être encore plus. Mm-hmm. Pas que je veux critiquer, pas du tout, comme je vous l'ai dit dès l'entame. Moi, je ne suis pas tellement dans la critique, voilà, dans le jugement. Je dis juste mon vécu. Il peut se rapprocher du vécu de quelqu'un d'autre. Ça peut différencier, tout simplement. Donc, tu es content, mais il y a déjà la manière de travailler ici qui est différente. Ici, tu te rends compte qu'il y a quand même assez de jugement.
Ah oui,
oui, énormément dans le travail, en fait. Et du coup, si tu n'es pas bien entouré, tu vas brouiller énormément du noir. Mmh. Tu vas beaucoup brouiller du noir parce que tu vas vivre tes difficultés tout seul et tu auras l'impression, en fait, qu'il n'y a pas de porte d'échappatoire, que tout est fermé, qu'il n'y a plus d'issue. Que tu es tête baissée dans le noir, que tu n'arriveras pas à t'en sortir et tout, parce que déjà, tu auras l'impression que tu survis au lieu de vivre.
Oui.
Voilà, mais ça, c'est plus parce que tu n'es pas bien entouré et du coup, tu ne vois pas tellement toutes les opportunités qui s'offrent à toi, en fait. Et moi, je dirais à une personne qui vient, c'est choisis bien ton entourage, choisis-le très bien. Parce que de toutes les façons, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Moi, je l'ai juste vécu et je me suis rendu compte que, c'était la vérité. Mmh. C'est que tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Mmh. Et si tu fréquentes des personnes qui sont plus dans la dépréciation, qui sont plus dans « ouais, c'est dur », ils sont en train de voir tout ce qui est négatif, tu vas pas t'en sortir. Ouais. Tu vas pas t'en sortir. Ouais. Par contre, si tu vois, parce que je vais même pas vous mentir, la thèse c'est dur. Et si j'ose dire sur ce plateau que la thèse c'est facile, je suis sûre que tous les doctorants vont me tomber là-dessus. La thèse c'est dur, c'est des heures et des heures de lecture pour certains. Et pour d'autres, c'est des heures et des heures dans des laboratoires à faire au fait des essais pour les scientifiques. Nous qui sommes les littéraires, c'est pas facile. Tu te rends compte au fait que, ben, écrire une poésie quand tu l'écrivais à ta mère, et écrire un texte qui va faire 400 pages et qui va être validé ou pas, c'est vraiment pas du tout facile. Donc, mieux, tu t'entoures de bonnes personnes.
Okay. Si je comprends bien, en fait, c'est un peu la santé mentale, parce que souvent on parle de compétences, souvent on parle de savoir-être, mais finalement on oublie aussi cet état d'esprit et cette santé mentale. Et je te rejoins sur le sujet, sur le fait qu'on peut vite partir dans une dépression et changer nos schémas de pensée. Mmh. Et je trouve que, surtout particulièrement dans ton cas, c'est important parce que tu prends sans cesse des décisions dans le cadre de ton projet entrepreneurial et doctorante. Et surtout, on oublie une chose, c'est qu'on est souvent livré à nous-mêmes. Parce que avec doctorant, je pense que je ne suis pas doctorant, mais en échangeant avec vous, je pense que on a aussi besoin de s'entourer, parce qu'on peut vite être incompris dans notre entourage. Et je pense qu'aussi, si tu cumules ça avec de l'entrepreneuriat, en fait on se sent comme un extraterrestre.
Ouais.
Surtout dans un pays, enfin surtout dans un nouveau pays. Donc je pense que c'est encore plus important de pouvoir s'entourer avec des personnes qui comprennent en fait tes difficultés, qui sont je dirais pas positif, mais plutôt optimiste.
Mmh, ok.
pour faire une distinction. Et ça permet ainsi de pouvoir rebondir, parce que je pense que c'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon.
Mmh.
Et je pense que c'est important d'être pas forcément résistant, mais plutôt résilient dans l'adversité, pour pouvoir avoir toujours cette bouffée d'air frais, afin de pouvoir faire des choix de manière pragmatique et de manière beaucoup plus rationnelle. Parce que je pense que quelqu'un avec du talent peut sombrer du jour au lendemain sur des choix de vie, parce que souvent ça joue à un ou deux choix dans l'année, notre année. Donc je pense que c'est important d'autant plus de pouvoir s'entourer d'une part pour notre santé mentale, et de l'autre aussi pour pouvoir avoir un nouveau schéma de pensée, innover et pouvoir s'enrichir au contact des autres.
Totalement, ouais. Ouais, c'est bien, c'est vrai que l'entourage, on ne le dit pas suffisamment, mais l'entourage, ça compte énormément.
Ah ouais.
Parce que je ne sais pas s'il y a des personnes qui, je suppose qu'il y a des personnes qui réussissent à s'en sortir seules. Je suppose, bien évidemment, parce que autant il y a des personnes qui doivent s'entourer forcément, autant il y a des personnes qui réussissent à s'en sortir seules. Mais moi, je pense toujours que savoir bien s'entourer, c'est, comme tu l'as dit, hein, je ne fais que répéter ce que tu dis, c'est important, parce que non seulement ça nous empêche de ne voir le monde que par notre prisme personnel. Et en plus, lorsqu'on le fait ainsi, on peut se tromper, mais on pense qu'on a raison.
Ah oui,
on se dit, ah bah non, c'est un biais. Exactement, on se dit, non, c'est ça, j'ai raison, c'est impossible. Parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui vont nous dire, ah non, mais moi, j'ai vécu différemment. Mm-hmm. Et c'est ça aussi, c'est pour ça qu'il faut sortir de ce... On est généralement obtus, particulièrement quand on est doctorant. Pourquoi ? Parce qu'on va passer des heures et des heures en bibliothèque. On va passer des heures à lire des auteurs qui étaient là avant nous, à lire des livres. Et donc, à un moment donné, on atteint cette étape-là où on se dit, mais moi, j'ai lu plus de 100 auteurs. À un moment donné, c'est que je suis quelqu'un et que je peux donner un avis. Et cet avis est forcément juste, est forcément vrai, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et c'est pour ça que l'activité doctorale, c'est d'abord et avant tout une activité assez solitaire.
Ah oui.
Tu travailles seul, bien évidemment. Mais les moments à côté, on peut aussi les travailler, on peut les passer avec d'autres personnes. Et on n'est même pas obligé de passer tout le temps qu'on met sur la thèse seul. Parce qu'on peut organiser des groupes, des séances de travail avec d'autres personnes. Il y a même quelque chose qui se fait au Canada. J'ai un ami qui est doctorant au Canada également. Et ils font, je ne sais pas si ça se fait ici, je suppose aussi, mais ils font des séminaires où ils y vont en promotion, c'est-à-dire 10, 15 ou 20 doctorants. Ils vont dans un chalet où ils ont beaucoup d'argent au Canada. En gros, ils vont dans un endroit qu'ils louent et ils sont tous ensemble, ils travaillent tous ensemble. C'est-à-dire, voilà, juste pour montrer que c'est important d'être ensemble, d'être entouré de personnes qui partagent la même vision que toi, de personnes qui peuvent te propulser. Et c'est toujours particulier. Au même moment, ça veut dire qu'il y a également peut-être certaines personnes qu'il ne faut pas, alors je dirais pas côtoyer, mais il faut réussir à mesurer son temps afin de passer plus de temps qui va nous bonifier plutôt que du temps qui va nous divertir. Pas que le divertissement n'est pas important, sauf qu'il faut réussir à faire la part des choses et surtout à conscientiser notre gestion du temps.
Et la question que je me pose, parce que là on parle de l'importance de pouvoir s'entourer, mais ça c'est que la phase visible de l'iceberg. Je pense qu'au quotidien, il y a beaucoup de... On a tous cette traversée du désert. Comment tu gères la solitude ?
La solitude... Franchement, moi je veux bien voir la personne qui a suivi le jury sans faille. Non mais en fait, moi pour de vrai, la solitude, je me dis tout simplement que c'est un moment pour mieux me connaître. Et à vrai dire, j'ai appris énormément sur moi-même en 3 ans.
Ouais.
Énormément. Bah, je suis seule. J'ai le temps de voir quelles sont les activités que j'aime le plus par rapport à d'autres. J'aime le temps de voir qu'est-ce que je veux dans le futur. J'ai le temps de voir comment j'aimerais me bonifier pour même demain, qu'est-ce que j'ai envie de manger, qu'est-ce que j'aime pas vraiment. J'ai le temps de voir, est-ce que je suis quelqu'un qui pardonne vite? Si je ne le suis pas, qu'est-ce que je peux faire pour me bonifier? J'ai le temps de voir mes défauts, mes atouts, j'ai le temps de voir plein de choses. Moi, je dis souvent aux gens, n'ayez pas peur d'être seul. Et à vrai dire, les vrais combats, voilà. Comme tu l'as posé la question tout à l'heure, là, qu'est-ce qui t'a fait décider de commencer Syndicat ? Parce qu'arrivé un moment, comme je te l'ai dit, tout le monde le disait, disait des choses, ils n'étaient pas pour Syndicat. Mais quand je me suis retrouvée toute seule et que je me suis posé la question, qu'est-ce que toi tu aimes ? T'es seule. Tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu vas passer le reste de ta vie avec toi-même. Donc mieux tu commences à te dire la vérité. Mieux tu commences à te dire tes vérités à toi, qui ne seront pas forcément les vérités des autres, ça c'est certain. Mais ça sera ta vérité et tu vas te battre pour cette vérité qui est la tienne. Donc du coup, lorsque j'ai appris que être seule, ce n'était pas si mauvais, moi les grandes décisions quand je dois les prendre, je me recroquevillais toute seule dans mon coin.
C'est-à-dire qu'en fait, ces moments d'introspection, ça a forgé ta conviction.
Oui, et je n'ai plus peur d'être seule. Avant, j'avais peur d'être seule. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai été seule, je suis seule. Et j'ai vu qu'au fait, la solitude m'a tellement formée, tellement forgée, que je crois que j'aurais dû apprendre à être seule plus tôt.
Je vois.
Alors, je tiens à préciser, est-ce que quand on parle de seul, on ne parle pas du fait de couper tout lien avec le monde extérieur?
Non, pas du tout.
En mode, tu te recroquevilles
perché dans son arbre.
Dans une montagne.
Non, pas du tout. Sinon, j'allais pas dire, choisissez bien vos amis. Non, pas du tout.
C'est ça, c'est apprécier le moment de solitude, mais également ne pas oublier de s'entourer.
Ouais.
Parce que le moment de solitude, on en aura toujours. Et il faut savoir les vivre. C'est vrai que parfois, on se dit, lorsqu'on est seul, étant donné que parce qu'on est seul, on commence par voir nos défauts, nos faiblesses, nos points forts, peut-être on n'essaie même pas de vraiment les voir, ça fait peur. Raison pour laquelle on essaie toujours d'être tout le temps avec d'autres personnes.
En fait, on est dans l'évitement de soi.
Exactement. C'est vrai. Et en plus, il y a aussi cette... je pense qu'on idolâtre trop ou beaucoup le fait, je ne sais pas si c'est trop ou pas, mais on idolâtre beaucoup le fait d'être accompagné parce qu'on se dit, plus j'ai d'amis, mieux c'est.
Plus j'ai de la valeur.
Exact, plus j'ai de la valeur. Alors que c'est peut-être vrai ou pas, je sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus, mais juste pour dire que la solitude c'est important, c'est là où on fait le travail le plus important. C'est dans ce qu'on construit seul, c'est ça qui nous caractérise aussi. C'est un peu comme il y a un speaker en Afrique du Sud qui disait que, il donnait un exemple par rapport à tout ce qui était entreprise, il disait que lorsqu'on voit cette salle par exemple, que la chose la chose qui nous permet d'être en sécurité, de nous dire que le toit va pas s'écrouler sur nous, ce ne sont pas les murs, ce n'est pas la peinture, ce n'est pas ce qu'on voit, c'est plutôt ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qu'il y a à l'intérieur, on le développe seul. On le développe seul en passant du temps, en faisant des recherches personnelles sur nous, et également sur le sujet qu'on traite, par exemple, si tu es par rapport à la thèse ou par rapport à Syndicat, mais en réussissant à cultiver notre personnalité, notre authenticité et tout ce qui va avec lorsqu'on est seul. Et ça, la face cachée de l'iceberg, il faut savoir l'exploiter afin de pouvoir être optimal sur tout ce qu'on fait. Et c'est pour ça aussi que ce que tu dis, je le trouve très, très pertinent. Il faut apprendre à être seul et apprendre à profiter de tous les moments de solitude qu'on a.
Même si ça effraie.
Ouais, ça effraie.
Il y a beaucoup de personnes, ils n'aiment pas du tout être... Ouais. Ils n'aiment pas leur compagnie à eux-mêmes. Et dès qu'ils se retrouvent tout seuls, ils sont paniqués, ils appellent le pote. « Ah, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux passer ?» Ouais. Ça te dit qu'on aille à la plage, il fait chaud, hein? Ouais. Et quand cette personne leur dit, par exemple, que je ne suis pas disponible, tu verras que cette personne, sa journée, elle est cachée. Ouais. Elle est triste. Et elle n'ira pas à la plage. Hein. Pourtant, elle avait donné, elle n'ira pas. Et quand tu apprends à vraiment te connaître, à vraiment voir ce que tu aimes, même si tu invites un ami, parce que oui, ça ferait plaisir d'aller à plusieurs, mais s'ils n'y vont pas, tu iras. Parce que c'est un plus pour toi. C'est un bien-être pour toi, au fait, au début. Et donc, tu iras. Tu ne vas même pas leur en vouloir, pas du tout. Mais tu seras épanouie, tu seras heureuse d'y être. Peut-être même après, tu leur enverras des photos. Regardez comment j'ai chillé. Ils seront étonnés parce qu'ils vont dire « Ah, tu es allée seule ?» Ben oui, c'était mon moment. Je voulais faire cette activité. C'était bon pour moi.
Donc, si je comprends bien, en fait, tu parlais de l'importance d'apprendre à se connaître, l'importance de savoir rester seul, l'importance de savoir s'entourer.
C'est ça.
D'une certaine manière, je trouve que c'est important d'être indépendant et autonome. Parce que c'est vrai qu'on oublie cette partie-là. Parfois, on est un peu dans une certaine mendicité sociale, financière ou autre. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment une étape vraiment importante pour être un homme ou une femme. Être un adulte à part entière, je pense, c'est d'avoir une certaine autonomie.
C'est ça.
Alors, parlons également côté professionnel. C'est aussi l'objet du podcast. Là, on vient de voir comment est-ce que tu gères tes deux activités. Alors aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, si on doit te dire, ok, là tu fais une thèse, et c'est quoi, c'est sur quoi pour ta thèse?
Je travaille au fait sur l'inceste.
Sur l'inceste, ok, d'accord. Donc là tu fais ta thèse. Là tu vas avoir à demander un emploi, je suppose, soit pour, on va dire un emploi. Comment tu réussirais à valoriser ta thèse ou ton activité entrepreneuriale, ton parcours jusqu'ici? Parce que généralement, et je pense même qu'on pourrait dédier tout un podcast à ça, même une semaine de podcast à ça. Mais c'est vrai, parce que généralement, quand on fait une thèse, on se dit, et le visu que les gens ont de la thèse, c'est que c'est trop théorique. Et ça n'apporte absolument rien.
Ouais, c'est vrai.
Quelqu'un qui, et en toute franchise, même moi en tant qu'employeur, je pense que je pourrais penser ça. C'est-à-dire, quelqu'un qui a passé 4 ans, 5 ans ou 3 ans à être enfermé dans une bibliothèque, à écrire des choses, cette personne pourrait être déconnectée de la réalité. Donc toi, est-ce que à cause ou grâce à ton activité entrepreneuriale, comment est-ce que tu réussis à montrer une certaine plus-value ou certaines compétences particulières pour un boulot, par exemple, dans le milieu juridique notamment?
Bon, d'abord, dans le milieu juridique, ce que les gens recherchent la plupart du temps, c'est quelqu'un qui a des connaissances approfondies sur les questions de droit, qui sait travailler en équipe. Ce qui joue en notre défaveur lorsqu'on est doctorant, c'est surtout ce côté travailler en équipe. Parce que dès le moment que tu sors que, je peux travailler en équipe, ils te diront, mais t'as passé tout le temps à écrire une thèse seule dans un... qu'est-ce qui dit que tu peux travailler en équipe? Très souvent, moi, je dis à ces recruteurs que ça, c'est ce que vous, la société, encore une fois, pense. Un doctorant, il ne travaille pas seul. Derrière un doctorant, il y a une école doctorale. Et derrière l'école doctorale, il y a l'école auquel il appartient. Et derrière cette école, il y a son directeur de thèse. Et derrière son directeur de thèse, il y a plusieurs professeurs qu'il va voir dans le contexte de travailler au fait de sa thèse. Donc, un simple doctorant, comme vous le dites, c'est pas de votre faute. Hein. Vous pensez qu'il reste juste dans une bibliothèque. Mais non, il voit en moyenne plus de 5 personnes par jour. Mmh. Et en plus de ça, il doit faire quoi? Un comité de suivi. 2 autres personnes encore qui vont venir lui demander comment avancent tes travaux. Est-ce que ça se passe bien? Qu'est-ce que tu as besoin? Et tout ça. Donc déjà, la partie communication... Je pense que le doctorant, il l'a. Okay. Et il a sur plusieurs casquettes. Même pour aller voir, au fait, comment je vais expliquer?
Il démarche?
Non, pas démarcher. Mais je veux simplement dire que nous, les doctorants, on va très souvent à la bibliothèque. Et souvent, on prend en fait des documents, tu vois. Et tous ces documents qu'on va partir prendre à la bibliothèque, il faut discuter avec les personnes qui y travaillent, tu vois.
Ah, tu inclus même ça, ok.
Oui, mais tout ça, c'est le cercle du doctorant.
D'accord.
Donc moi, je trouve aberrant que nous, doctorants, on nous limite uniquement qu'au lieu de la bibliothèque. Mais déjà, prenons même le lieu de la bibliothèque. C'est un lieu où il y a plus de, je dirais, 1000 personnes qui y passent chaque jour, au fait. Ouais. Et donc, vous ne savez pas s'il interagit avec ces personnes. Une thèse dans une question donnée, ce n'est pas seulement la question donnée. Souvent, tu vas voir d'autres personnes qui sont en sciences pour juste savoir comment ils appréhendent, au fait, ta question. Pour voir un peu quel est l'angle sous lequel tu peux jongler, tu vois. Donc déjà, moi, c'est vrai que les entreprises trouvent qu'on ne travaille pas tellement en équipe. Moi, je dis non. Mais en plus de ça, pour encore conforter le fait que je travaille en équipe, Cindy K peut venir le prouver. Parce que tu ne peux pas être entrepreneur sans une équipe.
Ouais.
Voilà. Et bon, moi, je dirais d'abord ça dans un premier temps. Et mes connaissances juridiques, en plus d'être générales, ils sont précis. Et pour ceux qui sont peut-être dans la géographie, hein, moi, je parle pour tout le monde, au fait. Donc, si tu es doctorant, en plus d'avoir des questions généraux, des questions générales sur lesquelles tu maîtrises, mais tu vas te spécifier, et ça, c'est une plus-value. Mmh. Ça, c'est une plus-value. On cherche des spécialistes de nos jours.
Ouais.
Donc, c'est vrai, le chemin, il est long, mais il est passionnant lorsque toi-même, durant le chemin, tu ne marches pas tête baissée. C'est tout ce que j'ai à dire.
Ok.
Après, tu ne penses pas que le fait de travailler en équipe, c'est décorrélé du fait d'être doctorant ou pas ?
C'est
décorrélé, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est plus surtout un profil qui travaille en équipe, parce que je connais des doctorants, ils sont dans leur taverne, ils sont en train de travailler seuls, ouais. Et j'ai l'impression qu'en fait, quoi qu'on fasse, c'est notre personnalité, c'est les conséquences. Que tu sois doctorant ou pas, en fait, il y a des doctorants, ils vont aller démarcher des personnes,
oui.
Ils vont aller rencontrer, ils vont aller dans des salons, des conférences, ils vont créer du réseau. Et en fait, ils ont créé en fait une petite équipe autour d'eux qui leur permet d'avoir toujours des retours sur l'expérience. Et je trouve qu'en fait, c'est nos choix. C'est, t'as eu ton doctorat, mais comment tu as fait, c'est quel moyen tu as mis en place pour avoir ce doctorat qui montre que tu as travaillé en équipe ou pas. Et en fait, les moyens que tu as mis en place, c'est par rapport à ton caractère, à ta personnalité, à ta vision des choses. Donc, je peux avoir mon doctorat en ayant travaillé seul, comme je peux avoir mon doctorat en ayant travaillé avec une équipe d'une cinquantaine de personnes. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Et ça qui est intéressant, je pense à ça, parce que je pensais à dans le cas de ton doctorat, que tu as été démarché de diverses personnes, et ça te permet de pouvoir en fait avoir un œil neuf sur ton travail, et ça te permet aussi de pouvoir fédérer autour de toi. Donc je trouve que c'est un faux problème. Je pense que c'est comment on amène en fait les choses plus que la chose en elle-même.
Exactement, c'est ça. Et là où tu as totalement raison, et c'est ce que tu as dit, moi je trouve ça très bien, parce que ce que tu as montré, au-delà même du fond, ce que tu as montré, c'est tu as réussi à valoriser des choses que tu as eu à faire dans le doctorat, dans la thèse.
Mmh.
Et ça, généralement, on n'arrive pas à le faire. Parce que pour encore beaucoup, je pense même, je ne m'exclus pas du lot, pour encore beaucoup, la thèse, c'est avant tout un diplôme.
Mmh.
Alors que la thèse, c'est avant tout une compétence. C'est tu as réussi à manager une équipe, quelle qu'elle soit, tu as réussi à travailler particulièrement sur un sujet, à mener à bien un projet de thèse. Et ça, c'est particulier. Déjà, il faut trouver la thèse. Il faut le trouver, le directeur de thèse. Il faut trouver l'école doctorale qui t'accepte. Il faut trouver plein de choses. Et on oublie généralement que tout ce processus-là, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, quelque chose qui demande des efforts, qui demande également des compétences et des habiletés particulières. Et parfois, on finit la thèse, mais on n'arrive pas à dire exactement quelles sont les compétences qu'on a réussi à acquérir dans la thèse. Et ce que tu as réussi, ce que tu as eu à dire, tu as montré que tu es totalement consciente de ce que la thèse te permet de faire, ce que la thèse et syndicat te permettent de faire.
Mm-hmm.
Raison pour laquelle, moi, je conseille toujours à tout doctorant, et même avant même le doctorat, mais à tout étudiant de réussir à valoriser ses expériences, ses compétences, que ce soit dans une association, dans la thèse a fortiori par rapport à tout ce qu'il a eu à faire, s'il a été chargé de TD ou etc. Parce qu'encore, il y a des doctorants qui pensent encore que la thèse, ils sont doctorants, hein, et pensent encore que la thèse ne servira à rien parce qu'aujourd'hui, les gens sur le marché de l'emploi, les gens ont plus besoin de personnes qui ont des expériences. Alors, c'est pas faux, mais la thèse, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et si on ne sait pas le valoriser nous-mêmes, bah, personne ne le valorisera pour nous. C'est un peu comme ton entreprise.
Oui.
Si toi-même, tu ne savais pas valoriser syndicat, je pense qu'aujourd'hui, tu serais peut-être quelque part en train de pleurer en disant « Oh non, syndicat, je
ouais, veux. » C'est ça.
Mais donc, en vrai, je rebondis une fois de plus. Je trouve que le doctorat, c'est un faux problème une fois de plus. Parce que souvent, on l'associe à la théorie.
Mm-hmm.
Mais on peut faire un doctorat de manière empirique.
Mm-hmm.
Rien n'empêche l'autre, en fait. Tu peux faire des expériences à côté. Tu peux aller rencontrer des personnes sur le terrain.
Mm-hmm.
Et là, du coup, ça permet de de mettre un point d'honneur sur le fait que non, je ne suis pas hors sol. Mm-hmm. J'ai vécu des expériences terrain. J'étais au contact de personnes qui sont au fait de ma thèse, de ma problématique. Et là, du coup, ma parole a du poids. Mm-hmm. Et je pense que c'est encore lié à notre vision des choses, à notre personnalité. Et finalement, c'est une fois de plus, le doctorat, la thèse de manière générale ou le mémoire, ça dépend de la personne.
C'est vrai.
Ouais. Et moi, je dis très souvent que si tu veux écrire, mm-hmm. bah, tout le monde peut le faire.
Oui, c'est vrai.
Souvent, il faut avoir au fait, une réelle motivation pour commencer un sujet donné, même si c'est, je ne parle pas seulement pour les doctorants, hein, même ceux qui sont en train d'écrire un mémoire. Ne prends pas juste parce que c'est un thème, tout simplement, tu veux valider ton année et basta. Parce que de la même manière que tu vas dire basta, c'est comme ça au fait que le monde professionnel va te faire basta. Parce que, ben oui, c'est la vérité. Au fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de personnes engagées. Mm-hmm. Tu es engagé sur quoi? Le travail que tu fais, ton travail de mémoire, c'est quoi? Qu'est-ce que ça va changer dans mon monde? Ouais. Oui, j'ai écrit sur telle ou telle chose, mais tu as du mal déjà à te convaincre. Et tu espères convaincre la société. Mmh. La société, elle juge. Bah, moi, j'ai été victime de ça. Donc, si tu ne sais pas toi-même pourquoi tu fais quelque chose, et surtout si tu ne vois pas l'engagement que tu prends en le faisant, arrivé à un moment, tu ne vas pas voir la plus-value de ce que tu fais. Ça, c'est sûr. Et pas pour parler du doctorat, t'inquiète, hein, y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont eu le doctorat. Énormément de thèses d'hommes à la bibliothèque, et souvent même je les dépoussière. Oui, pour pouvoir les lire, pour pouvoir les utiliser dans le mien. Mais je veux simplement dire que ces personnes-là, s'ils l'ont écrit juste parce qu'ils voulaient un diplôme, ils auront ce diplôme, mais toute leur vie, ce diplôme ne va pas leur servir. Parce que ce n'est pas le diplôme qui te fait, au fait. C'est toi qui fais le diplôme. Sinon, il y a plein de personnes qui auront le master et qui vont se dire que, ben, j'ai un master, mais pourquoi je ne trouve pas du travail? Alors que lui, il a eu un master, il n'a même pas eu la même... Il n'a pas... Ben, vous savez un peu, nous, les étudiants, il n'est pas si doué que moi. Et il travaille déjà, il a plus de, je ne sais pas, 4000 euros comme salaire. Mais c'est aberrant, c'est une injustice. Mais non, même s'il n'était pas doué, il savait. Pourquoi il faisait ce mémoire-là? Il savait pourquoi il avait pris cette option de master. Il savait où il partait. Il avait des valeurs, il avait des engagements. Donc du coup, quand il est rentré dans le monde professionnel, en plus du travail, genre du mémoire qu'il a fait, du master qu'il a décroché, il avait des valeurs. Il avait quelque chose à dire. Quand on lui disait, mais pourquoi vous pensez qu'on doit vous prendre en lieu et place? Il avait plein d'arguments.
Ouais.
Alors que pour toi qui as fait simplement un master, tu as pris ton master et c'est maintenant que tu vas aller démarcher le terrain de l'emploi, mais ça sera compliqué. Donc pour toi aussi qui fais juste la thèse parce que tu te dis que ben, je vais être professeur, n'oublie pas que pour avoir même le simple concours de maître de conférence, c'est une jungle.
Ouais.
Donc il faut savoir pourquoi tu te lances là-dedans. Et vraiment commencer dès maintenant pour ceux qui n'ont pas d'équipe à créer ton équipe. À créer ton réseau, à créer quelque chose. Parce que même si tu ne sors pas professeur d'université, tu peux sortir conseiller quelque part dans une boîte. Pourquoi ? À cause du fait que tu sais travailler en équipe, à cause du fait que tu as créé ton petit noyau, tu t'es créé ton petit réseau, comme on le dit, tu as approché certaines personnes dans le cadre de ta thèse, qui ont trouvé une certaine utilité, de sorte que ces personnes-là même sont plus pressées que toi, que tu termines. À la limite, chaque jour, ils te demandent « Ah, ça avance les travaux, est-ce que tu as pu trouver certaines choses ?» Parce que nous, on a besoin de ça par rapport à ça. Et tu te rends compte que tu es utile. Mais si tu es seul dans ton coin, ben, tu vas te décourager, tout simplement.
Merci beaucoup. Franchement, c'était très profond et surtout, ça montre l'envers du décor. Ça montre que la thèse, c'est pas quelque chose d'évident, pas quelque chose de facile, c'est quelque chose de beau. Ça, je le dis, je le répéterai toujours. La thèse est une expérience belle, mais pour avoir cette beauté, surtout pour la voir, il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux, il faut savoir s'entourer, il faut se donner les moyens de sa politique, comme on dit, et il faut surtout, comme tu l'as très bien dit en dernier mot, il faut être engagé. Être engagé dans son parcours, réussir à connaître, à conscientiser les valeurs et les compétences qu'on acquiert durant la thèse. Et c'est comme ça qu'on réussira à mener une thèse et peut-être une entreprise à côté aussi, de manière totalement passionnée, afin d'être utile à la société et afin de s'en sortir même personnellement. En tout cas, merci beaucoup à toi, Cindy. Tom, tu as un dernier mot ?
Je pense que je vais laisser le dernier mot à Cindy.
Ok, donc Cindy, tu as le dernier mot aujourd'hui.
Si j'ai le dernier mot, je voulais d'abord remercier vos internautes. Merci à vous pour cette opportunité que vous m'avez donnée de pouvoir parler de mon parcours. Merci à toutes les personnes qui, après, vont écouter ce podcast. Ce que je voulais vous dire, c'est que peu importe les échecs, je sais que vous en avez déjà parlé, voilà, donc peu importe les échecs, arrivez à un moment dans la vie, choisissez des choses pour vous. C'est très dur, je vous le concède, de le dire. C'est plus facile du moins de le dire qu'à faire. Choisir pour soi, c'est pas dire oui, je vais réussir pour qu'ils voient. Non, vous n'avez rien. Je vous jure, vous êtes des personnes merveilleuses. Vous n'avez rien à prouver à personne. La seule personne à qui vous devez prouver quelque chose, c'est vous. Sentez-vous bien dans ce que vous faites. Choisissez vos rêves en fonction de vos capacités. Et si vous tombez, c'est pas si grave. On apprend parce que tout simplement on tombe de temps en temps et on se relève et on poursuit. Mais de toutes les façons, ne perdez jamais votre objectif. C'était moi. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Syndica, merci à la Radio Campus, merci à Tom Brel et merci à toutes les personnes qui nous écoutent. On se dit donc à la semaine prochaine pour un autre épisode de CEO.
Radio Campus Bordeaux 88.1.